Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous présenter la présente édition d'Écho de ma commune et de mon canton. Nous allons aujourd'hui à Chartres Métropole. En seconde partie d'émission, nous parlerons de tourisme avec Philippe Rossard, directeur de l'Office de tourisme de Chartres Métropole. Mais tout d'abord, les orientations budgétaires pour l'année à venir en compagnie de Franck Maslu, vice-président de Chartres Métropole en charge des finances.
Franck Maslu, vous êtes donc second vice-président délégué de Chartres Métropole, en charge des finances, le grand argentier de l'agglomération. Alors, le budget principal, c'est 52 millions d'euros entre 2018 et 2020, dont 26 millions pour la seule année 2018. Comment seront réparties en fait ces sommes ?
Oui, alors là, c'est encore une fois, c'est uniquement le budget principal. Hein, si on raisonne avec l'ensemble des budgets annexes, c'est des sommes bien plus importantes, puisque sur la période que vous citiez, 2018-2020, on sera même à plus de 182 millions d'euros. Donc vous voyez, des sommes très conséquentes, et sur ces 182 millions d'euros, on aura un peu plus de 60 millions d'euros, rien que pour l'année 2018. Donc c'est toujours le même choix, les mêmes orientations politiques au niveau de l'agglomération. C'est le pari, c'est l'investissement, comment transformer, comment développer une agglomération, comment la rendre encore plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui, et ça passe par la réalisation d'équipements complémentaires dont on ne dispose pas. Je pense notamment à la future salle sportive et culturelle de la gare. Je parle en matière de transport sur la future plateforme multimodale à la gare, sur la première ligne BHNS bus à haut niveau de service, sur des compétences autres comme bien sûr la partie eau et assainissement, là aussi des travaux importants mais qui sont plus que nécessaires, voilà, d'extension des réseaux, de raccordement à la nouvelle station d'épuration. Voilà, c'est le pari aussi de l'investissement sur l'éclairage public, voilà, pour on va dire moins consommer demain avec des nouvelles technologies. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique à l'agglomération, comment on arrive à investir davantage tout en faisant des économies sur le fonctionnement, parce que des fois et bien des investissements nouveaux comme l'éclairage public, c'est là très typique, en changeant effectivement on va dire certains mâts, eh bien, on passe en LED et là, on a des économies sur la facture et les factures récurrentes que sont les dépenses d'énergie.
Mais c'est un engagement, ça a toujours été un engagement de Jean-Pierre Gorge, y compris au niveau de Chartres Métropole, c'est évidemment de réduire les dépenses de fonctionnement, et ça va se poursuivre également dans les années à venir.
Oui, alors, et ça on l'a lancé très tôt nous, puisqu'aujourd'hui on n'a pas attendu la loi NOTRe pour s'engager dans des schémas de mutualisation, etc. C'est des choses qu'on fait voilà depuis plus de 7 ans maintenant, qu'on avait lancé bien avant, et depuis 2001, c'est comment faire des économies sur le fonctionnement. Je pense notamment à la masse salariale, je pense à ce qu'on peut appeler entre guillemets des dépenses qui peuvent être qualifiées de somptuaires, quoi. Voilà, donc mais c'est ces économies et tous ces terroirs qu'il faut ouvrir. Alors vous pensez bien sur une agglomération aujourd'hui élargie en plus à 20 communes supplémentaires qui sont issues de communautés de communes différentes, avec là aussi un panel de services pour accueillir ces communes et surtout leurs habitants, leur garantir un service et une continuité de service.
Pour vous, ça a dû être un travail considérable non, au niveau des finances.
Bien sûr, à travers, quand on parle de services, c'est des conventions, c'est des délégations de services publics, voilà, c'est reprendre un peu leur historique, et puis à un moment donné, mettre en face de ça un certain nombre de chiffres, et ça concerne le budget principal, mais aussi l'ensemble des budgets annexes de Chartres Métropole. Donc voilà, un gros travail. Compliqué, long, mais on y arrive. Et puis derrière ça, il y a aussi l'actualité nationale qu'il faut pas oublier, puisque là aussi, hier, la loi de finances 2018 a été approuvée par l'Assemblée nationale. Il y a aussi une loi de programmation des finances publiques sur la période 2018-2022 qui a été approuvée et qui met aussi un certain nombre de contraintes supplémentaires pour, on va dire, les collectivités. Donc vous voyez, c'est la difficulté qu'on a depuis un certain temps, nous, au niveau des élus locaux, d'arriver à construire des budgets avec, on va dire, derrière nous, eh bien, des règles du jeu qui changent perpétuellement. Et ça, c'est quand même c'est plutôt un frein à une prospective financière et donc à des investissements, parce que les collectivités aiment bien aussi avoir une vue à court et moyen terme de ce qui va leur arriver, quoi.
Justement, vous m'avez dit, là, juste avant de commencer cette interview, vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours comme tous les élus locaux entre Paris et Chartres. Ça signifie qu'aujourd'hui, on en est où exactement ?
Alors, la loi de finances a été adoptée, je vous l'ai dit. Se posent aujourd'hui encore quelques questions, puisqu'on a, dans un amendement qui a été déposé par le gouvernement, c'est l'amendement, l'article 24, pardon, sur cette loi de programmation des finances publiques, qui impose, on va dire, aux plus grandes collectivités, en tout cas pour celles qui ont un budget de fonctionnement supérieur à 60 millions d'euros, et ce qui est le cas de Chartres Métropole, de passer un contrat avec le représentant de l'État du département. En l'occurrence, on travaillera donc bien sûr avec Madame la Préfète sur le sujet, visant à, dans ce contrat, eh bien, mettre des objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement de l'agglomération afin de les limiter, avoir un objectif d'amélioration du besoin de financement, et puis derrière ça, troisième objectif, un ratio de désendettement, et pour les collectivités, il a été fixé à 12 ans. Alors, sur l'agglomération, on n'a pas de problème, parce qu'on est bien inférieur à ça, aussi bien sur le budget principal, puisqu'on est inférieur à 8 ans, et si on consolide tous les budgets annexes, aujourd'hui on est à un ratio supérieur à 9 ans, et on a une spécificité en dehors de l'investissement que j'évoquais tout à l'heure sur Chartres Métropole, c'est qu'on va distribuer plus de 11 millions d'euros en 2018, c'est un peu les dividendes qu'on verse à nos communes, et là c'est quelque chose de facultatif, et croyez-moi, il y a peu d'agglomérations en France de la taille de celle de Chartres qui distribuent autant de masse financière vis-à-vis des communes membres, et ça effectivement, si on retraitait ces dividendes, on serait à un ratio de désendettement inférieur à 3 ans. Donc vous voyez, là-dessus, on a des finances qui sont en excellente santé, on va dire, et voilà, mais on aimerait bien quand même avoir une vue. On a parlé longtemps ces dernières semaines de la réforme de la taxe d'habitation, par exemple.
Vous êtes très inquiet.
Inquiet, c'est comme à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr que dans un pays où on a un déficit public qui va augmenter, qui va atteindre pratiquement plus de 83 milliards en 2018, je ne suis pas sûr qu'on avait le luxe que l'État prenne à sa charge une partie, effectivement, puisque c'est au total, on le sait bien, rien que 3 milliards de coûts pour l'État sur cette mesure partielle en 2018, puisque je vous rappelle, la suppression de la taxe d'habitation concernant 80% des habitants se fera de manière étalée sur 3 ans, mais au final, voilà, c'est un coût important pour l'État. On nous dit aujourd'hui, pour les collectivités, c'est quelque chose effectivement qui sera compensé, encore une fois, puisque cette taxe d'habitation, on l'encaissait aussi bien au niveau des communes, mais aussi au niveau des établissements publics comme les Chartres Métropole, bien sûr. Donc vous voyez, on est concerné des deux côtés, ville et agglomération. Donc, et puis le risque, c'est comme à chaque fois, les compensations, eh bien, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, eh bien, elles se réduisent, voire parfois elles sont annulées. Donc voilà, c'est ce risque que j'évoque. Encore une fois, c'est bien de baisser les impôts, mais encore faut-il avoir, on va dire, un pays avec des finances saines. On peut supprimer, on peut diminuer effectivement les prélèvements, mais je ne sais pas si on en avait les moyens aujourd'hui.
C'est ce que Chartres a toujours fait, de diminuer la pression fiscale, mais là c'est vraiment très fort.
Oui, alors nous on diminue, mais c'est aussi sur la ville de Chartres depuis ça fera en 2018, ça sera la 17e fois qu'on baisse les taux des impôts, taxes d'habitation et taxes foncières, et ça représente, je vous rappelle, quand on fait le calcul par habitant, c'est plus de 200 euros chaque année qui a été, on va dire, restitué aux Chartrains. Donc là aussi c'est quand même pas des sommes neutres, je parle par habitant et non pas par foyer fiscal, et donc voilà, c'est toute cette stratégie. Mais encore une fois, nous quand on fait ça, quand on baisse les impôts, on savait qu'ils étaient trop élevés, mais on avait aussi, entre guillemets, les moyens de le faire, parce qu'on a un territoire dynamique, parce que effectivement il y a une progression du nombre de logements, parce qu'il y a des entreprises qui s'installent, etc. Bon, heureusement, moi ce qui me fait toujours rire, c'est qu'on a les gouvernements se suivent et se succèdent, qu'on donne toujours des leçons aux collectivités territoriales qui, elles, sont obligées bien de présenter des bilans et, entre guillemets, des budgets en équilibre, et contrairement à l'État. Et je vous rappelle qu'au niveau national, nous représentons, nous, les collectivités, soit dans 70% de l'investissement public. Voilà, donc vous avez en plus un État qui est en déficit et qui emprunte pour, entre guillemets, faire fonctionner et payer, entre guillemets, l'ensemble des fonctionnaires d'État. Donc bah, ça, d'une part, dans le cadre des collectivités, c'est interdit. Et nous, quand on emprunte, c'est que pour l'investissement. C'est pour l'avenir, voilà, contrairement à l'État.
L'investissement ne va pas faiblir. On sait que c'est très important, notamment pour le développement économique que vous avez en charge à Chartres Métropole. Vous allez quand même continuer d'investir. Est-ce qu'il y a on nous habitue à des grands projets, des projets d'envergure? Il y en a plusieurs qui sont en cours. Vous avez cité notamment le projet Paul Gas. Est-ce qu'il y en a d'autres en réserve?
Oui, il y aura le lancement de la salle culturelle et sportive, je l'évoquais, de la gare. Donc là, un autre équipement majeur qui nous fait défaut, on va dire, sur une agglomération comme Chartres. Il y aura, on le sait, on avait lancé un jury de concours là sur demain un futur Chartres Expo, là aussi un autre équipement alors qui est existant, mais on va en reconstruire un plus grand, plus moderne, plus adapté à ce que aux besoins, entre guillemets, des clients qui fréquentent ce type de d'équipement aujourd'hui. Donc voilà, et tout ça, c'est encore une fois ça, des équipements nécessaires. On l'a vu à travers quand on a construit l'Odyssée. On peut se dire bah c'est un ensemble aquatique, patinoire, etc. Mais ça donne, vis-à-vis de l'extérieur, un dynamisme pour une agglomération, d'avoir un ensemble comme ça qui a coûté, je vous rappelle, voilà, plus de 60 millions d'euros, une image très dynamique d'un territoire comme le nôtre. Et aujourd'hui, on le sait bien, à la fois pour les entreprises, à la fois qui viennent de l'extérieur, on regarde toujours, et bien c'est plus aujourd'hui une entreprise quand elle s'installe, je le dis régulièrement, on ne regarde plus que les impôts, taxes professionnelles qu'on pouvait le voir avant, quel est le niveau de fiscalité sur un territoire. On regarde aujourd'hui ces équipements. Est-ce qu'on est en capacité effectivement d'avoir de la main d'œuvre? Et ça, c'est aujourd'hui primordial. C'est bien beau de faire des entreprises qui sont installées dans les champs, mais encore faut-il être en capacité d'amener, on va dire, cette notion de masse salariale. C'est ce qui est aujourd'hui préoccupe les chefs d'entreprise. C'est pour ça qu'au niveau de l'agglomération, eh bien, on aménage aussi des zones d'activité. Voilà, en périphérie du secteur urbain, pour constituer, là aussi, on a des réserves foncières. On a aujourd'hui quasiment vendu tout le foncier disponible sur le jardin d'entreprise. On va lancer, parce qu'on a maîtrisé le foncier aujourd'hui, on va l'aménager demain, la future zone des pôles ouest. Voilà, et bien là aussi, c'est des entreprises qui s'installent, et derrière ça, c'est des impôts économiques, c'est des emplois, c'est de la construction de logements, et c'est des fréquentations dans les différents équipements qu'on a lancé depuis pas mal d'années.
L'aventure continue, dans des conditions difficiles, mais elle continue.
Elle continue.
Merci. Deuxième partie de cet écho de ma commune et de mon canton consacré à Chartres Métropole. Après avoir balayé l'actualité budgétaire en compagnie de Franck Maslu, nous allons nous intéresser au tourisme. C'est plus fun quand même. Avec Philippe Roissac, qui a la gentillesse de nous recevoir en ce lieu magnifique, la Maison du Saumon, qui est siège de C'est Chartres Tourisme, c'est-à-dire l'office de tourisme de Chartres Métropole, car désormais, le développement touristique est envisagé à l'échelon communautaire et non plus municipal. C'est d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui vous a décidé à quitter vos montagnes savoyardes pour les plaines beauceronnes, Philippe Rossin.
Oui, absolument. J'ai été séduit d'abord par Chartres, que je connaissais depuis une quinzaine d'années, mais aussi par l'environnement de cette métropole que j'ai trouvé très dynamique. Et c'est vrai que, bon, venant des montagnes, bien sûr qu'il y a d'autres attraits, mais il n'y a pas sans doute la même cohésion, la même envie de travailler ensemble. Dans les montagnes, on est plus encore dans les petites querelles de village. Ici, j'ai vu avec grand plaisir qu'on était dans une vraie dynamique de communauté, de communes.
Alors, avant d'évoquer la politique de développement touristique que vous avez commencé d'impulser, je voudrais que nous retournions dans votre passé, parce que votre parcours est vraiment singulier. Vous avez commencé à vous intéresser au tourisme des régions via l'éditorial. Vous avez travaillé chez Gallimard.
Oui, exactement. J'étais de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. C'est-à-dire que pendant 13 ans et demi, je me suis occupé de créer et de développer des collections de guides de voyage, beaucoup en France, parce que, en fait, les guides Gallimard, c'est encore une collection qui existe et qui est à pignon sur rue, qui sont des encyclopédies du voyage. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est que, en fait, on créait, avec ces guides, l'identité des territoires, et on était, au fond, des metteurs en scène de tous les savoirs, de tous les savoir-faire locaux. Et je me rends compte aujourd'hui, en étant passé maintenant au niveau d'un office de tourisme, que on a à peu près le même métier, c'est-à-dire de mettre en valeur et mettre en scène, en fait, toute la richesse et la diversité des territoires. Donc finalement, c'est plus un continuum qu'il n'y paraît. Ça m'a permis, ces 13 ans et demi passés chez Gallimard, de faire le tour de beaucoup, beaucoup de communes de France, de à peu près toutes les régions, les préfectures, les sous-préfectures, et donc d'être déjà très en lien avec les collectivités locale.
Vous avez une vraie culture littéraire en outre. Est-ce que c'est important ça pour... Ça peut servir le tourisme ?
Mais écoutez, je pense que oui, c'est important de dénoncer clairement ce qui fait la richesse du territoire. Après, le goût littéraire, c'est plus le goût de effectivement de la précision du mot juste, voire du mot poétique. Mais je trouve que dans chaque territoire, il y a une poésie particulière, et c'est important qu'on est ici dans une patrie où il y a beaucoup d'écrivains, Peggy, Proust, etc.
C'est un Proustien, je crois. Hein.
Un peu, oui. J'ai un peu travaillé dessus quand j'étais plus jeune, et je trouve que c'est important. Aujourd'hui, d'être capable d'être très connecté, d'être sur le numérique, etc., mais d'être aussi très précis et très en profondeur. Et je trouve qu'ici, on est dans un pays de terroir avec des terres formidables qui sont beaucoup moins monotones que ce qu'on a pu dire il y a un certain temps. Et je trouve que ces terres-là, elles sont contrastées, et il y a des écrivains qui en parlent très bien. Donc je trouve que c'est bien de s'en inspirer aussi, que le tourisme, c'est aussi une culture. Et c'est, moi, j'ai coutume de dire que si on veut être... bon, dans le tourisme, il faut qu'on sache faire deux choses. D'abord, c'est accueillir les gens. Et les accueillir, c'est leur faire partager une culture, un territoire. Et donc, il faut lever le nez, il faut regarder le nom des rues, il faut regarder ce qui nous entoure. Et ça, pour le comprendre bien, il faut lire, il faut se renseigner, etc. Et je pense qu'on est bon dans le tourisme si on est capable d'accueillir, et si on est capable d'être un ambassadeur de son territoire. Sinon, c'est compliqué. Sinon, tout se ressemble.
Finalement, vous avez commencé finalement comme flâneur des bords de l'Eure ici, alors ?
Oui, c'est exactement ça, à titre personnel aussi. Il y a le piéton de Paris, on parle de littérature, il y a le piéton de Paris de Fargue, il y a le piéton de Chartres, et j'avoue que moi, je prends beaucoup de plaisir à me balader dans la ville, autour de la ville. J'adore aller effectivement au bord de l'Eure jusqu'aux Trois Ponts, j'adore aller de l'autre côté sur les Grands Prés, aller après à Saint-Pré, à Jouy, etc. Enfin, je trouve qu'il y a ici... un territoire qui s'est construit, il y a une ville qui est remarquable, qui a du relief, donc ça me touche particulièrement, où on marche, on a plaisir à flâner, et il y a un environnement de nature qui est à la fois préservé mais aussi apprivoisé, et ça permet de faire beaucoup d'activités de loisirs que je trouve pour le coup extrêmement riche par rapport à la Maurienne où j'étais avant. Dès qu'on faisait 500 mètres, effectivement, les pentes étaient extrêmement ardues. Là, c'est plus dans mes cordes au niveau vélo et randonnée, disons.
Alors parlons à présent du développement touristique au sein de Chartres en métropole. On l'a vu avec Franck Massu tout à l'heure, depuis le 1er janvier, il y a 66 communes abritées au sein de Chartres en métropole. En 2010, elles n'étaient que 7. Alors mesure le chemin parcouru, mais aussi l'ampleur de la tâche qui vous attend, parce que je suppose que vous allez devoir plancher en étroite collaboration avec les maires, non des communes.
Oui, absolument. Alors on a déjà commencé depuis le mois de juin avec mon président Jean Gaudet. On s'est dit que la première démarche à faire, c'était d'aller voir tous les maires, d'aller se présenter, d'aller avec beaucoup d'humilité et d'écoute, aller essayer de rencontrer tout le monde pour comprendre. Parce que souvent les maires ont cette... pour le coup, humilité parfois excessive de dire « Oh, ben, chez moi, il n'y a pas forcément grand-chose, etc. » Et puis, de fil en aiguille, là, on en a vu presque 40 déjà, donc on a encore un peu de boulot, mais on a déjà pas mal lancé la mécanique. on se rend compte que dans chaque commune, il y a un lavoir, il y a une église, il y a un détail d'architecture qui sont des pépites cachées, enfin parfois cachées, parfois pas cachées. Quand je pense à Melle-el-Grenet par exemple, bon, ça commence à être un petit peu connu. On a vu l'autre jour des Hollandais à vélo qui s'arrêtaient à l'église. Mais je veux dire, on a une vraie diversité patrimoniale, touristique, culturelle qu'on a envie de mettre en valeur. Et donc ce tour des communes, on va le terminer, je pense, fin février. Et il va se retrouver dans tous nos documents touristiques. C'est-à-dire que, effectivement, comme le disait Franck Maslu, c'est vrai qu'on va arriver à 66 communes. Donc nous, tous les documents de l'Office de tourisme en 2018 mettront en valeur les pépites de ces 66 communes. Donc c'est un gros travail éditorial. Vous voyez, on reparle d'édition finalement, pour refaire un plan, refaire un guide, refaire tout ça à l'échelle de l'agglo. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, je pense que cette agglo, elle a une vraie cohérence, un vrai sens. Et surtout, ce qui me frappe en allant voir tous les maires, c'est qu'ils ont tous envie de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est assez nouveau.
Alors le but, et ça depuis pas mal d'années, c'est de faire en sorte que les touristes ne fassent pas que passer à Chartres, on est sur la route, l'itinéraire de Château de la Loire, mais qu'ils s'y arrêtent. Et là, m'avez-vous dit, peut-être qu'on a trouvé la martingale. Alors c'est quoi ?
Oui, alors j'ai écouté la martingale, effectivement le terme est un peu... C'est un peu un terme de jeu, mais en l'occurrence, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, quand je suis venu à Chartres pour la première fois il y a 15 ans, pour le mariage d'amis chartrain, la ville, effectivement, était plus une ville de passage. Il y avait la cathédrale qui était vraiment en majesté, et puis une très belle ville. Mais tout le travail qui a été entrepris, et vraiment de façon spectaculaire, je trouve, depuis une dizaine d'années, fait que, grâce à Chartres en Lumière en particulier, on a pu garder les touristes une nuit de plus. Donc on a aujourd'hui des séjours qui sont d'une journée, voire deux jours. Le vrai souci, c'est d'arriver à les garder un peu plus, et en gros, c'est de leur donner des choses à faire, en particulier le dimanche, parce que le dimanche, on n'est pas forcément jusqu'à présent les meilleurs. Donc il faut qu'on arrive à trouver des produits touristiques et culturels à proposer à nos visiteurs. Et l'ouverture à ces 20 nouvelles communes, et en particulier au château de Maintenon, ça nous donne, comme je disais effectivement, la martingale, c'est-à-dire en gros une cohérence territoriale entre Chartres, qui est, on va dire, la ville-centre, la ville attractive, autour du médiéval, autour de la cathédrale, et autour d'un art de vivre à la française, qui m'a été, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, pour le coup c'est des journalistes indiens, brésiliens que j'ai reçus cet été, qui m'ont dit ici, c'est un peu la France en miniature, c'est une France idéalisée.
Et la vieille province, c'est ça non ?
La belle province, plutôt que la vieille, ouais. Mais bon, pour le coup,
mais ce qui est vu a du charme,
absolument. Et c'est une belle province, et c'est une province aussi très diverse, c'est-à-dire qu'on est, quand on est au bord de l'Eure, tiens, on peut être un peu dans la petite France, comme à Strasbourg, on peut être aussi comme à Montmartre, voilà, il y a en concentré ce qui fait, je trouve, le génie français et l'intelligence du territoire et sa diversité. Donc ça, c'est ce qu'on trouve à Chartres. Ce qui nous manquait un petit peu, justement, c'était cette notion d'itinérance. Et donc l'itinérance Chartres-Maintenon-Maintenon-Chartres, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place, puisque il y a une piste cyclable qui est extrêmement cyclable, et aussi qu'on peut faire à pied, d'ailleurs, entre Chartres et Maintenon. Il y a des thématiques nouvelles, c'est-à-dire qu'à Maintenon, on a le golf, on a la balade, on a le vélo. Donc on va essayer, avec ces deux pôles, qui sont deux pôles attractif, de structurer une offre touristique pour en faire vraiment de cette destination une destination de court séjour. Et aller lutter, parce qu'on est dans une concurrence évidemment mondiale, mais déjà au niveau français, je pense qu'on va pouvoir, et j'espère que l'année prochaine on va rentrer dans le club, au niveau d'Atout France, au niveau du ministère du tourisme, on a ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un groupement des destinations de court séjour, et j'ose espérer qu'on sera admis dans ce club fermé avec Annecy, avec Colmar, avec des gens comme ça, pour pouvoir leur montrer qu'ici il y a une grande diversité, une grande attractivité, et je dirais des installations, des sites de niveau mondial, quoi. Quand on est patrimoine de l'UNESCO, moi je le vois quand on discute avec nos amis du Mont-Saint-Michel, de Vézelay, etc., on a naturellement une attractivité qui est énorme. Donc il faut qu'on soit capable de transformer cette attractivité, et de faire en sorte que nos touristes restent au moins 48 heures, voire 72 heures, ce qui fera le plaisir de tous nos hôteliers, restaurateurs et de toute l'économie du territoire.
Oui, parce que qui dit développement touristique, c'est de plus en plus vrai d'ailleurs pour des pays comme la France, qui sont un peu désindustrialisés malheureusement, c'est que le tourisme c'est devenu aussi une machine à faire de la monnaie, hein, et c'est nécessaire.
C'est clair, ce qui est... Moi j'ai coutume de dire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je viens du privé, donc je pense qu'effectivement, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément ici, c'est que on travaille vraiment dans l'intérêt général du territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille avec le club hôtelier, par exemple, on renforce nos liens, nous, avec les hôteliers, les restaurateurs, tous les acteurs économiques du territoire, parce qu'au final, on a le même objectif. L'objectif, c'est de dire que ce périmètre, Chartres, maintenant communauté d'agglomération, ce périmètre doit se développer. Et on va le développer avec le tourisme, parce que quand vous avez 80 000 visiteurs payants au château de Maintenon, c'est toute l'économie locale qui en bénéficie. Quand vous avez 1,5 million de visiteurs à la cathédrale de Chartres, c'est tout le tissu local qui en bénéficie. Donc le tourisme aujourd'hui, pour être efficace, comme je disais tout à l'heure, il doit être ancré, c'est-à-dire qu'il doit être culturel. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que la clientèle, disons, qu'on vise, c'est-à-dire une clientèle cultivée, la clientèle parisienne, la clientèle aussi de la région. Cette clientèle-là, elle attend quoi ? Elle attend des choses discriminantes. Elle attend pas de voir la même chose, de voir les mêmes chaînes de magasins que partout ailleurs. Il y a une étude qui est sortie sur les capitales européennes où au fond, entre Barcelone, Berlin, Londres, on retrouve les mêmes magasins, le même type de rue piétonne, etc. Ça, on s'en préserve ici. Et je trouve qu'on a à la fois une qualité de commerce, une qualité d'aménagement qui fait qu'on n'est pas pareil que les autres. Et ça, je pense que cette spécificité-là, c'est ça qui est notre richesse pour l'avenir. Donc il faut qu'on cultive notre différence et qu'on cultive notre jardin culturel pour exister parmi toutes les autres villes.
On parle de l'arrivée d'un parc d'attractions aux portes de Chartres Métropole, qui est à la fois historique et ludique, évidemment, employé l'an dernier technologie, mais relié au passé médiéval de Chartres. Ça, c'est un truc qui vous intéresse ?
Ah, évidemment, nous, on est très, très heureux de ce projet. Je pense que, pour le coup, il n'y a pas de hasard. C'est un parc qui s'inscrit vraiment dans ce qui fait l'ADN de cette ville. C'est-à-dire, c'est une ville médiévale. Je pense qu'effectivement, nous, on voit bien quand on propose des visites médiévales à l'office de tourisme, elles ont un très grand succès, que ce soit pour les grands ou les petits d'ailleurs. Et c'est souvent les enfants qui sont les plus évidents consommateurs de ce Chartres médiéval. Et donc, je pense que ce parc, ça ne peut que ancrer de nouveau et mieux Chartres dans son passé, dans sa réalité. Et ce qui est intéressant dans ce projet, comme dans d'autres projets qui touchent à la cosmétique, qui touchent tous ces projets de développement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font du sens. C'est que c'est pas des projets qui sont plaqués comme ça sur une réalité dont ils seraient éloignés. En fait, ils exhument d'une certaine manière l'identité du territoire. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et encore une fois, nous, le tourisme, on est juste là pour mettre en scène ça, mettre en musique la vraie identité profonde du territoire. Alors quand on a la chance d'avoir des outils de ce niveau-là, évidemment...
Vous dites juste là, c'est quand même du boulot, j'ai bien compris. Hein. Dans une interview donnée il y a quelques temps, ce sera ma dernière question, vous avez émis ce vœu, j'aimerais que Chartres soit un lieu dont on se souvienne comme un lieu magique, un peu secret. Est-ce que c'est le sentiment que vous en avez depuis votre prise de poste en mai dernier? Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Chartres. Tu verras, Chartres, c'est une ville pleine de secrets.
C'est vrai, c'est une ville qui a le mystère qui nous dépasse. Je trouve que ce qui est magique ici, mais c'est vrai aussi à Maintenon. Et pour citer Jean-Pierre Gorge qui nous a dit ça récemment, effectivement, et on parle, vous savez, de marque de territoire, etc. Et il nous a dit, effectivement, que ce soit Maintenon ou que ce soit Chartres, ce sont deux sites, deux identités qui nous dépassent un peu. Et je pense que c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a un élément, quand vous allez à la cathédrale, il y a un élément, alors après, selon sa sensibilité, ses croyances ou ses non-croyances, on peut l'interpréter comme on le souhaite, mais en tout cas, il y a un élément de transcendance qui fait qu'on ne va jamais au bout. Et je pense qu'une vie ne suffirait pas à décrypter tous les mystères de cette cathédrale et de cette ville. Et c'est ça qui, au fond, je pense, peut mettre en appétit, peut donner de l'envie de revenir à des touristes, à des visiteurs. C'est que on va pas au bout du mystère. Il y a des sites sur lesquels, bon, on est venu une fois, voilà, on a fait un peu le tour de la question. Ici, on peut venir, revenir, revenir. Je peux citer aussi Gilles Fresson, qui est le coordinateur de la cathédrale. Et Gilles, il nous dit, oui, une vie ne suffit pas à comprendre et à appréhender toute la richesse de ce monument. Et je pense que c'est vrai à Chartres, c'est vrai à Maintenon d'un autre point de vue, parce que là, on est aussi baigné dans l'histoire de France, dans la littérature. Et je pense que cette complexité de ces deux pôles-là fait qu'il y a une part de mystère qui est irréductible. Et ça, ça me plaît bien parce que je me dis que voilà, chaque matin, on se lève et on se dit qu'on a plein de choses encore à découvrir et ça, c'est un vrai moteur.
C'était Philippe Rossat, directeur de l'Office de tourisme de Chartres Métropole. Voilà, c'est fini pour cette petite balade dans la communauté d'agglomération chartraine. Je vous retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition d'Écho de ma commune et de mon canton. Excellente fin de journée à toutes et à tous.